Bonjour. Je crois que nous avons tous plus ou moins l'impression que nous allons vers des temps difficiles et que nous allons devoir vivre désormais dans un monde troublé. Donc que nous serons plus ou moins menacés dans notre confort, notre mode de vie, notre sécurité, notre liberté, notre environnement, sans trop savoir, puisque l'avenir est par définition inconnu, ce qui nous attend vraiment. De tous côtés nous viennent des informations très alarmantes sur l'état du monde, et on peut parfois avoir l'impression que la classe politique minimise ces informations, ce qui crée une sensation globale d'irréalité et d'impuissance. Et quand je parle de temps difficile, je reste sobre, parce que les mots qui flottent dans l'air sont souvent d'un registre plus dramatique, comme catastrophe ou effondrement. J'ai même entendu des expressions comme ambiance de fin du monde, où nous courons à notre perte, et beaucoup de gens, et surtout les jeunes, c'est bien compréhensible, s'inquiètent de cette situation préoccupante. Le titre de cet article, Se préparer à des temps difficiles ou vivre dans un monde troublé, ressemble à un titre d'ouvrage de spiritualité. Pema Chodron a écrit Conseil d'une amie pour des temps difficiles, Frédéric Lenoir Vivre dans un monde imprévisible, et le Dalaï Lama L'art du bonheur dans un monde incertain. C'est toujours plus ou moins le même titre en remplaçant un mot par un synonyme. Moi, je voudrais, dans ce podcast, traiter le sujet d'abord sous l'angle de la politique et de l'action collective. Je voudrais aussi montrer comment la sagesse et la politique se complètent. En fait, notre monde ne sait pas trop comment aborder des temps difficiles. C'est plutôt un sujet tabou, impensable. Tout ce que notre société semble capable de dire à ce sujet, c'est qu'il faut être optimiste et ne pas jouer sur la peur. Il est vrai que ce sujet, la perspective de temps difficile, est très délicat. D'abord parce que c'est une mauvaise nouvelle et que personne n'a envie d'entendre des mauvaises nouvelles. Et aussi parce que ce thème engendre des réactions plus ou moins inadéquates ou inconfortables, comme le déni, la peur, le découragement, l'impuissance, la fascination morbide ou l'opinion. Mon but dans cet article, c'est de chercher une autre voie. Comment regarder la réalité en face en restant positif, actif, ouvert et même heureux? C'est là que se trouve le défi, un défi particulièrement intéressant à relever. Mon éducation et mon intérêt pour la philosophie antique m'ont amené à l'idée que la dignité de l'être humain résidait en sa capacité à regarder les difficultés et les problèmes en face avec lucidité et à tenter de les résoudre plutôt que de les fuir. Et pourquoi ce n'est pas cela qui se produit? Pourquoi y a-t-il plutôt déni et inaction? Et à quelles conditions pourrions-nous regarder la réalité en face et prendre la difficulté à bras-le-corps? Première partie. Une planète saturée de tensions. Donc là, c'est plutôt un état des lieux. Je pense qu'il n'y a rien de très original à constater que la planète est saturée de tensions diverses. Alors, l'une chasse l'autre, celle qui prend le devant de la scène évacue les autres, mais sans les faire disparaître. Donc, elle se superpose en s'accumulant. Donc, c'est assez spectaculaire. En moins de 10 ans, les attentats se sont multipliés aux quatre coins du monde. Il y a eu successivement le début de la guerre de Syrie en 2011, la confirmation au pouvoir de dictateurs comme Poutine ou Xi Jinping, la croissance insidieuse du péril nucléaire, la crise des gilets jaunes en France, en même temps que l'arrivée au pouvoir de chefs d'État populistes ou imprévisibles comme Trump ou Bolsonaro, le Covid et aujourd'hui la guerre en Ukraine. Donc terrorisme, troubles sociaux, épidémies, guerres, recul ou fragilisation de la démocratie, sans compter les canicules, les sécheresses, les inondations et les incendies dus au réchauffement climatique. Ça fait beaucoup, et on pourrait encore évoquer bien d'autres aspects, comme les migrations tragiques de nombreuses populations, ou l'endettement des nations. Tous ces événements perturbateurs, toutes ces tensions ont des causes profondes. Et si on n'agit pas efficacement sur ces causes, elles ne peuvent que continuer de se manifester, mais même probablement en empirant. Face à toutes ces tensions, il y a très peu d'anticipation et un optimisme un peu forcé. Quand un problème éclate, on fait face, mais souvent avec un temps de retard. Par exemple, on a fait face au Covid, plus ou moins bien, avec beaucoup de débats, des pour, des contre. En revanche, il y a un grand silence sur les risques futurs d'épidémie. Pourtant, la probabilité qu'il y en ait d'autres, et donc qu'on revive ce qu'on a vécu pendant le Covid, voire pire, est très élevée. Je viens de lire un article à ce sujet sur le site de BFM TV, daté du 6 mai 2022, intitulé Réchauffement climatique, urbanisation, mondialisation, pourquoi les risques de pandémie risquent de se multiplier, dont un passage me paraît très typique de la façon actuelle d'aborder les choses. L'article relate les propos de Yazdan Pana, directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida maladie infectieuse, ANRS, qui dit notamment la probabilité qu'il y ait une pandémie est plus importante qu'avant. Donc ça c'est assez banal, ça fait suite à un tas d'articles qui vont dans le même sens et d'études. Mais c'est le passage suivant qui me paraît très significatif. Donc je cite: Peut-on craindre qu'il soit déjà trop tard à moins de modifier drastiquement nos modes de vie? Yazdan Pana refuse de céder au pessimisme, considérant que la communauté scientifique est consciente du risque et que l'on peut s'y préparer. Ces quelques lignes me laissent dubitatif et elles appellent quelques commentaires. Alors redis le début. Peut-on craindre qu'il soit déjà trop tard, à moins de modifier drastiquement nos modes de vie? C'est assez habile comme procédé rhétorique, comme argumentation. On pose la gravité du problème sous forme de question. Peut-on craindre? C'est bien, ça montre qu'on n'est pas naïf, qu'on est conscient du risque, et en même temps, ça permet d'évacuer l'éventualité à toute vitesse. C'est ce que fait l'article avec un excellent prétexte, refuser de céder au pessimisme. Ce n'est pas un argument scientifique, mais une posture morale. Il faut être optimiste. C'est une forme de pensée magique, un syllogisme un peu bizarre. Puisque c'est pessimiste de se demander s'il n'est pas trop tard, et qu'il ne faut pas être pessimiste, conclusion, il n'est pas trop tard. Et la suite, considérant que la communauté scientifique est consciente du risque et que l'on peut s'y préparer. On peut s'y préparer, mais est-ce qu'on va s'y préparer? Il y a une nuance, on peut et on va, c'est pas tout à fait la même chose. Et cette préparation peut-elle être vraiment efficace si elle ne s'accompagne pas d'une modification drastique de nos modes de vie? Ou en tout cas, à défaut de drastique, suffisante pour régler vraiment le problème? On pourrait dire mot pour mot la même chose au sujet du réchauffement climatique. Est-ce que ça n'est pas trop tard? Faut-il modifier nos modes de vie? Mais non, mais on ne va pas céder au pessimisme. Pourquoi? Parce qu'on est conscient du risque et que l'on peut s'y préparer. Oui, mais on voit bien que on peut s'y préparer, mais est-ce qu'on le fait? Jusqu'à aujourd'hui, l'Europe a été très préservée, mais elle l'est de moins en moins. En fait, si on réfléchit au sujet que j'aborde aujourd'hui, l'idée qu'on pourrait vivre des temps difficiles, l'inquiétude par rapport à l'avenir, c'est un sujet de gosse de riche, si j'ose dire, de privilégié, un sujet qui ne concerne que l'Europe, l'Amérique du Nord et quelques autres démocraties. Parce que dans bien des endroits du monde, bien des endroits, la souffrance est d'ores et déjà très intense. En Afghanistan, au Yémen, en Syrie, en Éthiopie. Les gens n'ont plus ce luxe de se demander si un jour proche, ils pourraient vivre des temps difficiles. En Europe, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons bénéficié d'une longue période de paix, de prospérité et de liberté. Mais pourrons-nous toujours nous préserver du chaos, de la violence, de la souffrance qui font la loi hors de nos murs? C'est la grande inconnue. Mais pourquoi serions-nous éternellement protégés? On peut d'ores et déjà constater que les désordres du monde ont un impact croissant sur l'Europe. Par rapport à toutes ces menaces, le décalage de la classe politique est particulièrement surprenant. On peut dire qu'elle n'est pas du tout préparée pour annoncer, anticiper et assumer des temps difficiles, pas plus qu'elle ne l'est à concevoir un monde vraiment différent et viable. Sa préoccupation principale est plutôt de préserver le système actuel en le faisant durer le plus longtemps possible. Pendant la campagne présidentielle, j'ai eu sous les yeux le tract de Fabien Roussel, candidat à l'élection. Il s'agit pour lui de retrouver la France des jours heureux, La France des jours heureux, c'est super. Et les promesses des autres candidats sont du même acabit. Est-ce qu'on va vraiment rassurer les gens avec ce genre de promesses, avec ce genre de propos? Ce contraste entre la gravité des difficultés à venir et l'insuffisance des mesures prises nous plonge dans une sensation d'irréalité et d'insécurité. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je ne sais pas comment je réagirais. C'est ça le monde que vous nous laissez, c'est ça le monde dont nous héritons, c'est ça le monde dans lequel je vais vivre. L'absence d'action adéquate face aux difficultés à venir est source d'angoisse pour tous, et en particulier pour les plus jeunes. Évoquer les menaces écologiques et constater qu'aucune action politique adéquate n'est menée est anxiogène au possible. La seule façon de trouver un axe intérieur solide, c'est de regarder la réalité en face, sans déni, pour agir adéquatement. Deuxième partie, pour ne pas perdre un peu aujourd'hui, on perd tout demain. Maintenant, je voudrais faire un petit rappel historique. Ce n'est pas la première fois que l'humanité est confrontée à des problèmes graves. L'histoire de l'humanité est semée de périodes de grandes difficultés, et pour chacune d'elles, on peut se demander si elles auraient pu être évitées. Et la réponse est presque toujours, techniquement oui, mais socialement non. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement oui, mais socialement non? Ça veut dire que des solutions existaient, mais qu'elles n'ont pas été appliquées à temps, en raison d'une forte résistance sociale. Du coup, les difficultés pourrissent et finissent par être insolubles. Donc la grande question, c'est pourquoi elles n'ont pas été appliquées? On parle beaucoup du devoir de mémoire, d'apprendre de l'histoire pour ne pas répéter les mêmes erreurs, mais en fait, j'ai le sentiment que l'humanité n'apprend pas grand-chose. Donc ce que je voudrais aborder maintenant, c'est pourquoi on n'anticipe pas, pourquoi on ne se prépare pas? C'est un phénomène historique qui s'est reproduit maintes fois, une sorte de loi, de schéma, d'enchaînement de causes et d'effets que toute personne qui s'intéresse aux sciences sociales connaît. Il y a une sorte de logique implacable à l'œuvre, qui ne serait pas implacable si nous étions plus lucides, plus sages, plus courageux, plus civiques, mais qui, compte tenu de la réalité de ce qu'est l'humanité, demeure implacable. Et cette loi que je vais développer et illustrer, en une phrase, c'est si on ne résout pas une difficulté à son début, et bien souvent les difficultés ne sont pas résolues à leur début, si on ne résout pas une difficulté à son début, elle devient de plus en plus difficile, puis au final, impossible à résoudre. Il y a plusieurs phases. Donc d'abord, des difficultés apparaissent. Elles ne sont pas trop graves et il serait relativement facile de leur trouver une solution. Mais comme personne n'a envie de faire des petits sacrifices, des petites remises en cause et qu'il y a un énorme aveuglement général, il ne se passe rien. En démocratie, les hommes politiques rechignent à prendre tout de suite des mesures qui pourraient être impopulaires à court terme pour résoudre un problème qui sera grave dans 20 ou 30 ans. Ce n'est pas du tout payant électoralement. Des mécanismes de défense très efficaces isolent et ridiculisent ceux qui signalent la difficulté. On les accuse d'être pessimistes, catastrophistes, de jouer sur la peur. Ceux qui voudraient agir sont souvent divisés et au départ, ils manquent d'unité et de crédibilité. Bref, au final, on ne fait rien et on rate le coche. Il est certain que si on avait pris le virage de l'écologie en 1985, on aurait gagné 40 ans. Mais ça ne s'est pas fait. Pour ne pas perdre un peu aujourd'hui, on ne veut pas voir qu'on risque de tout perdre plus tard. À partir de là, une fois que ça a commencé comme ça, il y a un engrenage quasiment implacable. Les difficultés augmentent. Elles ont gagné en visibilité et en crédibilité, mais le coût pour les résoudre a nettement augmenté lui aussi. Les résistances sont encore très fortes. Toutes les personnes qui ont jusque-là nié ou minimisé les difficultés devraient, pour prendre des mesures, reconnaître qu'elles se sont trompées. Mais en démocratie, reconnaître qu'on s'est trompé fait le jeu de l'opposition. Bref, on ne fait toujours rien, et ainsi de suite. Tout en disant, bien sûr, que il faut garder espoir, que tout est possible, que rien n'est écrit. Voilà, on en arrive à une phase d'intensification dans laquelle la situation a bien dégénéré, mais le prix à payer pour éviter le pire est devenu beaucoup trop élevé. Ah, c'est le temps de la sidération. Le déni est encore très fort. Et ceux qui tentent malgré tout de regarder la réalité en face ressentent des émotions très intenses d'anxiété, de colère et d'impatience. C'est à peu près là que nous en sommes aujourd'hui, avec le réchauffement climatique. Alors, je vais prendre quelques exemples un peu plus anciens. L'exemple le plus connu, le plus souvent cité pour illustrer ce processus, c'est la montée du nazisme entre 1933, année de la prise du pouvoir par Hitler, et juin 1940, qui marque la défaite de la France. Ça fait une période de 8 ans dans laquelle le danger nazi augmente progressivement, parce que l'Allemagne est démilitarisée, et puis Hitler remilitarise l'Allemagne. Donc, d'année en année, l'armée allemande est plus puissante, et puis Hitler fait des petites annexions, de plus grandes, il y a un processus continu. Le danger nazi augmente. Face à ça, la majorité de la classe politique, en France et en Angleterre, n'a pas du tout envie d'intervenir et s'appuie sur l'affirmation rassurante, qu'Hitler va s'assagir. Alors, déclarer la guerre, la question de la guerre à Hitler se pose à partir de 1936. En 1936, ben, ça aurait été coûteux de faire la guerre, parce qu'une guerre, c'est toujours coûteux, mais beaucoup moins. Un peu plus tard, beaucoup moins qu'en 1938, et en 1938, beaucoup moins qu'en 1939, etc. Pour avoir à tout prix voulu éviter une guerre qui aurait été moins coûteuse, on s'est retrouvé avec une guerre beaucoup plus coûteuse, extrêmement coûteuse, une guerre mondiale effroyable. Un autre exemple très évocateur et avec lequel le parallèle avec le réchauffement climatique est encore plus probant, parce que là aussi il s'agissait de lâcher un peu, hein, de faire des réformes, des petits sacrifices, et puis ça pouvait passer en douceur, mais ça n'a pas été fait. Donc l'Algérie française de 1930 à 1962, c'est une période de 30 ans à peu près. Donc en gros, l'Algérie comptait environ 1 million de pieds-noirs, des Algériens d'origine française, et 9 millions d'Arabes. 1 million, 9 millions, donc quand même une grosse majorité, une écrasante majorité d'Arabes musulmans. Ces derniers n'étaient pas considérés comme Français à part entière, ils n'avaient pratiquement aucun droit et étaient dominés politiquement et économiquement. Ils subissaient aussi pas mal de mépris. Alors bien sûr, la France leur promettait, qu'ils disaient que l'Algérie était la France, que voilà, etc., l'égalité, bref, on leur promettait la nationalité française et la pleine égalité des droits. Mais c'est une promesse qui n'a jamais été tenue. Il n'y a même jamais eu d'avancée réelle dans ce sens. En 1936, sous le gouvernement, c'est le Front populaire, le gouvernement du socialiste Léon Blum, en 1936, le ministre d'État responsable des affaires algériennes, Maurice Violette, tente de faire passer un tout petit projet de réforme qui prévoyait de commencer par donner la citoyenneté française et le droit de vote à 25 000 Algériens musulmans. 25 000 sur 9 millions, c'est-à-dire 0,003% de la population. Oui, ce n'était pas la révolution. C'est pas ça qui aurait beaucoup changé les équilibres politiques et le statut des Arabes musulmans. Bon, mais même s'il est si minime, le projet rencontre une résistance massive. Il n'est pas voté et l'idée est enterrée. Maurice Violette a fait alors ce commentaire, dans un style un peu lyrique, assez littéraire, c'est le style de l'époque. Voilà ce qu'il dit. Prenez garde, les indigènes d'Algérie, par votre faute sans doute, n'ont pas encore de patrie. Ils en cherchent une. Ils vous demandent la patrie française. Donnez-la-leur vite, ou sans cela, ils en feront une autre. En fait, c'était assez visionnaire et pertinent. Ils vous demandent la patrie française. C'était vrai qu'à l'époque, les Algériens demandaient à être intégrés et intégrés à la France et puis être traités comme des Français. Et puis, ça s'est pas fait. C'est pour ça qu'ils ont voulu, au bout d'un moment, l'indépendance. Donc imaginons à l'époque, plutôt que d'avoir enterré le projet, imaginons un pied noir un peu visionnaire, lucide et influent, qui aurait dit en 1930: Écoutez, nous sommes minoritaires, pour l'instant ça va, mais ça ne pourra pas durer. Donc il serait à la fois sage et juste d'intégrer progressivement les Arabes, les musulmans. On peut se donner 30 ans et on lâche un peu chaque année. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des maires arabes, des députés arabes, des chefs d'entreprise arabes et même un jour un gouverneur d'Algérie arabe. C'est un peu le même processus qu'aux États-Unis, où il y a même eu un président de la République noir. Alors quelqu'un qui aurait tenu ce discours se serait fait huer, traité d'idéaliste irresponsable. Il aurait été méprisé et haï. Donc voilà, donc on n'a rien fait. Et en 1962, 26 ans après le projet avorté Blum Violette, tous les pieds noirs ont dû quitter l'Algérie en perdant tout dans un bain de sang. On pourrait trouver beaucoup d'exemples de ce type depuis 250 ans. En fait, l'histoire montre qu'on se réveille une fois que la catastrophe a eu lieu. Alors, dans cette phase finale du processus, ça change un peu de règles du jeu. D'abord, il y a beaucoup de souffrance. Il ne s'agit pas d'annoncer qu'il va y avoir de la souffrance. On y est, il y a beaucoup de souffrance. Il n'y a plus de déni. Hein, le déni, puisque la réalité s'impose. On est dedans. Donc là, on ne peut plus nier ce qu'on a sous les yeux. Au contraire, c'est la grande contrition. Avec le recul, on se dit, quelle folie, pourquoi n'est-on pas intervenu plus tôt? Comment a-t-on pu être aussi aveugle et inconscient? Entre parenthèses, il est d'ailleurs très probable que dans 10 ans, on entende ce genre de discours, que toute la classe politique actuelle nous serve quelque chose de ce genre à propos de l'écologie. Et puis, bon, dans le désastre, il y a enfin action. De toute façon, on n'a plus le choix, donc on se réveille. Et là, autre leçon de l'histoire, plus positive celle-là, souvent, pas toujours, mais souvent, l'humanité fait face et surmonte l'épreuve. Il y a un réveil. Il y a aussi souvent beaucoup de solidarité qui se manifeste dans les épreuves. Après des années d'aveuglement, les gens se réveillent et s'adaptent. Parfois, c'est vraiment trop tard, parfois on perd tout, parfois les civilisations disparaissent, mais le plus souvent, on fait face et même dans un champ de ruines, on reconstruit un monde qui tient debout. Mais pourquoi attendre qu'il soit trop tard? Il y a donc une difficulté de l'humanité à envisager le long terme, à aborder la réalité de façon un peu spatiale, vaste, à envisager l'ensemble des causes et des effets, à repérer les tensions à leur apparition et à intervenir à temps. Ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, cela se traduit politiquement depuis des années par une hypertrophie du débat franco-français à court terme, au détriment d'une vision à long terme et internationale, sauf quand on n'a vraiment plus le choix. Donc voici deux citations datant de 2007 qui illustrent bien cette vision de la politique à court depuis une trentaine d'années. La première, elle est assez courte, elle est de Michel Rocard. Je suis frappé que personne dans le discours public ne nous parle en termes de décennies. Nous ne réfléchissons qu'à court terme, qu'en fonction de l'échéance suivante. La deuxième citation, elle est un peu plus longue, elle est d'Edgar Morin. Tout ce qui n'est pas l'hexagone est totalement évacué. Malheureusement, nous sommes dans une planète plus ou moins en convulsion, pour ne pas dire en crise. Des périls de toutes sortes nous menacent, pas seulement le péril écologique, mais d'autres périls. Prolifération des armes nucléaires, danger d'une guerre dite de civilisation qui serait une guerre de religion. Les candidats replient les Français sur eux-mêmes. Il n'y a plus de pensée politique, mais une politique, un, au jour le jour, et deux, à la remorque de l'économie, c'est-à-dire la croissance, la croissance. Il y a une sorte de vide politique. Les candidats essaient de remplir ce vide, ils ne réussissent pas à le faire. Voilà deux analyses datant de 2007. Mais ça ne concernait pas que l'année 2007, ça concernait ce qui se passait déjà depuis 10 ou 20 ans. Donc si vous voulez, on met 30 ans de vision à court terme, de vision purement franco-française à court terme, et puis après, il ne faut pas s'étonner de l'état de ce qui se passe aujourd'hui. On arrive en 2022 avec une longue impréparation. Alors, une fois qu'on a constaté ça, cette difficulté à anticiper, cette difficulté à résoudre les difficultés à temps quand elles surviennent, à diminuer les tensions à long terme, a contrario, on a une bonne définition de ce que serait la sagesse en politique. Ce serait le contraire. La sagesse en politique, ce serait intégrer le long terme, intégrer la dimension internationale, anticiper, œuvrer de façon à diminuer les tensions et régler les problèmes dès qu'ils apparaissent. Alors ça, c'est des bonnes intentions, on peut très bien se mettre d'accord là-dessus, mais en même temps, on peut très bien voir que si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles à une telle politique. Les obstacles, Alors, la résistance des intérêts privés, comme les intérêts des pieds noirs en Algérie, la pression des lobbies économiques, la peur de perdre, la difficulté à envisager la diminution de son niveau de vie, de faire un sacrifice. Ce sont des obstacles matériels, mais il y a aussi des remises en cause idéologiques. Reconnaître qu'on s'est trompé, lâcher ses illusions, accepter que les temps changent, admettre que les solutions d'hier soient devenues les problèmes d'aujourd'hui, remettre en cause le modèle dans lequel on est si ce modèle a des conséquences négatives. En fait, il s'agit de lâcher l'illusion qu'on va pouvoir continuer comme avant, sans rien changer, sans renoncer à rien. Alors, il y a une cause supplémentaire à l'inaction, spécifique à notre monde moderne, c'est l'espoir d'une solution technique. Ça aussi, ça justifie l'inaction. Par exemple, j'ai entendu pendant la campagne présidentielle sur France Inter, Éric Zemmour, il était interrogé sur le réchauffement climatique. Alors, il n'a pas nié le réchauffement climatique, mais il a dit, en gros, c'est pas un problème. Et pourquoi? Il a avancé deux arguments très commodes. Il croit, ce sont ses mots, il a commencé comme ça, je crois. Il croit, un, à l'infinie adaptabilité de l'être humain, et deux, au génie humain qui trouvera grâce à la science des solutions techniques. En conclusion, l'écologie n'est donc ni une priorité ni vraiment un problème, puisque quand ça deviendra un peu plus grave, dans quelque temps, ben, on aura une solution technique. On saura s'adapter, on aura une solution technique. Et sur ce point, Zemmour n'est pas différent, ce n'est pas en tant que candidat d'extrême droite original que je le cite, c'est sur ce point, Zemmour n'est pas différent d'une grande majorité de la classe politique, de droite comme de gauche, qui attend, qui espère qu'on trouve une solution technique et pour qui ça justifie l'inaction. Troisième partie, il ne faut pas jouer sur la peur. Donc avant de poursuivre, je voudrais examiner une autre idée très répandue selon laquelle il ne faut pas jouer sur la peur. Ce sont souvent les réfractaires à l'écologie qui utilisent cet argument, contre les écologistes ou les climatologues. Mais cette injonction est aussi reprise par les climatologues eux-mêmes et les oblige à rester très prudents, alors qu'en fait, au fond, en eux, ils savent, ils sont très conscients du danger, ils sont très inquiets. Mais de l'autre, ils se sentent obligés de tenir des propos mesurés, rassurants, pour pas être trop décourageants et pour être entendables. La proposition il ne faut pas jouer sur la peur est en apparence indiscutable. Bien sûr qu'il ne faut pas jouer sur la peur, parce que la peur est paralysante et mauvaise conseillère. La peur alimente l'angoisse, entraîne la dramatisation et fabrique des dangers imaginaires. Hein, comme on dit, il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités, ben de même, il ne faut pas prendre ses peurs pour des réalités. Donc l'intention de ne pas jouer sur la peur, de vouloir qu'on ne joue pas sur la peur, elle est parfaitement légitime. Quand même, il y a une condition très importante, c'est qu'on puisse rester honnête et dire la vérité face à un danger réel, dans le but de l'analyser et de prévoir des solutions. Sinon, ça pose un problème insoluble. Je ne me représente pas bien comment on pourrait signaler un danger réel sans prendre le risque de générer de la peur. Mon meilleur ami a un cancer de la gorge. Comment lui dire la vérité sans jouer sur la peur? Dois-je lui mentir pour le rassurer? Lui dire qu'il a une rhinopharyngite et qu'il n'a pas besoin de traitement? Comment fait-on pour parler de la gravité de la crise écologique sans jouer sur la peur? Il se retrouvera toujours quelqu'un pour nous reprocher de le faire. En fait, il ne faut pas jouer sur la peur est très souvent l'argument défensif de ceux qui sont dans le déni. Elle sert surtout à disqualifier l'adversaire. Dès que quelqu'un signale un danger, que moi j'ai pas envie de regarder en face, ben je dis qu'il joue sur la peur, ce qui le disqualifie. Ainsi, le déni, qui est une attitude foncièrement dénuée de courage, se transforme en posture morale supérieure. C'est très pratique. Je vous accuse de jouer sur la peur. Ça sous-entend que moi, je ne joue pas sur la peur, ça sous-entend que je suis optimiste, confiant, que je crois en la raison, que j'ai un point de vue serein, que je prends du recul, que j'ai confiance dans l'humanité, ça c'est très beau. En fait, tout danger réel provoque de la peur, c'est tout à fait normal, la peur fait partie du décor. Mais le déni n'est pas la solution, la solution c'est la lucidité, le courage et l'action. Alors voilà, sur fond de lucidité, de courage et d'action, ben, on peut parler d'un danger sans jouer sur la peur. Et s'il n'y a pas d'action, si rien n'est entrepris pour faire face au danger, à ce moment-là, la peur se transforme en anxiété. On parle beaucoup de l'éco-anxiété, cette anxiété que ressentent les jeunes quand ils pensent à leur avenir et au monde dans lequel ils vont devoir vivre, notamment en raison du réchauffement climatique. Mais pas que. Une étude menée dans 10 pays différents, du nord comme du sud, pas que des. Il y a l'Inde, les États-Unis, la France, le Brésil. Une étude menée dans 10 pays révèle à peu près, les statistiques sont assez proches, en gros, la moyenne, plus de 70% des jeunes se disent éco-anxieux. En France, c'est un peu plus, 74%, quelque chose comme ça. Donc, il me semble que la décence minimum, c'est de respecter cette anxiété. Déjà, on laisse aux jeunes un monde menaçant et une tâche écrasante. Il ne faudrait pas en plus mépriser leurs souffrances ou les prendre de haut. En réalité, il y a plus de courage et de lucidité à être éco-anxieux qu'à être dans le déni. Il s'est joué une scène typique pendant la campagne électorale, qui est passée relativement inaperçue. C'était à Pau le 18 mars. Une lycéenne, Anna Katharina, a interpellé Emmanuel Macron sur son bilan climatique. C'était pendant une tournée du président. Elle l'interpelle lui faisant part de ses craintes sur l'écologie. Et le président lui répond ceci, je cite, l'anxiété ne permet pas d'avoir une vision utile. Je suis pour l'éco-lucidité. L'anxiété vous abat, vous fait vous replier sur vous-même, elle vous rend apeuré. La question, c'est comment on produit ensemble de l'efficacité. Je respecte la colère, je chéris l'indignation, j'ai, me semble-t-il, un devoir que ça ne se transforme pas en peur. On doit être des acteurs face à ces défis. Alors en apparence, c'est une très bonne réponse, très propre, très positive. Qui pourrait être contre? Qui pourrait être contre l'éco-lucidité? Moi, je suis pour l'éco-aveuglement. Qui pourrait être contre l'éco-lucidité? Sauf que cette réponse, en fait, n'est pas respectueuse envers cette jeune fille. Elle est très condescendante. Anna Katharina, elle dira d'ailleurs quelque temps après, l'éco-anxiété existe, pourtant le président a totalement nié ce phénomène. Il a réduit au silence ce que ressentent les jeunes. Et en plus, le bilan écologique d'Emmanuel Macron, hein, les 5 premières années, son premier quinquennat, c'est pas fracassant. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat et les propositions, elles ont toutes été enterrées en bonne et due forme. Donc pendant qu'Emmanuel Macron fait cette réponse impeccable, hein, avec toutes ses belles formules, l'éco-lucidité, produire ensemble de l'efficacité, être acteur face à ces défis, pendant ce temps-là, tous les climatologues tirent la sonnette d'alarme et sont désespérés qu'on fasse si peu. Donc il me semble qu'il aurait été plus franc et plus conforme à la réalité de la part d'Emmanuel Macron de répondre quelque chose comme, on peut toujours imaginer, hein, il aurait répondu, je suis vraiment désolé, je comprends votre souffrance, vous allez traverser une grande épreuve, il vous faudra être courageux et par rapport à tout ça, les gens de ma génération, dans lesquels je m'inclus, on n'a pas été à la hauteur. Excusez-nous, pardon. Bon, ça aurait été plus franc, plus conforme à la réalité. Ou bien, on pourrait répondre à Emmanuel Macron que ce qui rassurait vraiment cette jeune fille, ce n'est pas un discours méprisant sur son anxiété, ce serait des actes. Bon, depuis sa réélection, Emmanuel Macron fait beaucoup de promesses écologiques. On verra. Mais pourquoi maintenant, et pas 5 ans plus tôt? Quatrième partie, trouver une force intérieure. Il n'est pas facile, de gérer toutes les émotions qu'une perspective inquiétante soulève en nous. Hein, on a vu l'éco-anxiété, l'anxiété là, mais il y a la colère, la tristesse. Donc la question qui se pose, et une des plus décisives, c'est que faire de ces états intérieurs? Comment les vivre? Comment les transformer? Que faire de la colère, de la tristesse et de l'anxiété? Comment rester le plus souvent possible dans quelque chose de plus positif, de l'ordre du contentement, de l'amour, de l'ouverture aux autres, de la joie? Et comment traverser les inévitables moments de souffrance et de découragement? Le déni est très tentant, car il assure un certain confort. Évidemment, le déni ne fait pas lever toutes ces émotions. Mais moi, je fais partie d'une école de pensée qui considère que la vérité est prioritaire et que, au final, alors bien sûr, il y a un moment difficile, une traversée à faire. Mais au final, la vérité est en fait plus rassurante que le mensonge. Accepter et assimiler la réalité est en fait, au fond, plus confortable et surtout plus productif que lui tourner le dos. Le vieux sage de la saga Harry Potter, Dumbledore, il le dit dans le volume 4, il est nécessaire de comprendre la réalité avant de pouvoir l'accepter et seule l'acceptation de la réalité peut permettre la guérison. Donc il n'est pas le premier à dire ça. En fait, il se situe tout à fait dans la ligne de la philosophie antique, ou de ce qu'on nomme la spiritualité aujourd'hui. C'est vraiment un apport, là où il y a un apport qui est très précieux, très utile, c'est justement d'apprendre à regarder la réalité en face et à digérer ce qu'on a vu. Apprendre à regarder une réalité difficile à regarder et rester positif et rester actif. C'est un apprentissage, une force intérieure qui permet de rester heureux, de ne pas sombrer dans la dépression. Un art de mobiliser des ressources intérieures de plus en plus profondes. Une façon d'utiliser les épreuves pour gagner en lucidité, en amour, en densité, en profondeur. Voilà, tout ça, c'est le préalable à une action qui sera nécessaire. Mais ça nous renforce dans nos capacités d'action. Donc la philosophie antique nous enseigne l'art d'être heureux dans des circonstances extérieures difficiles, comme en témoigne l'expression prendre les choses avec philosophie. Prendre les choses avec philosophie, c'est supporter les épreuves, les pertes, les deuils, et en fait de garder quelque chose de très positif. Alors, il y aurait beaucoup, on pourrait beaucoup développer là-dessus, mais je vous donne juste deux citations. Alors, la première, elle est de Shoyam Trungpa, c'est un maître tibétain du XXe siècle. Shoyam Trungpa dit, la spiritualité consiste à pourfendre l'espoir et la peur, à découvrir soudain l'intelligence qui va de pair avec ce processus. Et la deuxième citation, elle est d'Épictète. Alors là, cette citation-là, elle a 2000 ans. Épictète, c'était un philosophe romain stoïcien. Que dit Épictète? Deux points. Ce sont les difficultés qui révèlent les hommes. Philosopher, qu'est-ce? N'est-ce pas s'être préparé à tous les événements? Que doit donc dire le philosophe en face de chacune des aspérités de la vie? C'est pour cela que je me suis exercé, c'est à cela que je me suis préparé. Je voudrais aussi, par rapport à cette capacité à regarder la réalité en face, plutôt que de la fuir, et finalement de sortir de l'anxiété par la lucidité, je voudrais aussi vous citer Ethil Soum. C'est une jeune femme juive hollandaise morte à Auschwitz en 1943. Elle devait avoir un peu moins de 30 ans. Et dont le journal est paru en français sous le titre Une vie bouleversée. Et le journal, il va de 1941 à 1943, à une période où les persécutions augmentent, augmentent, augmentent. Donc elle, c'est pas l'éco-anxiété qui l'a menacée, mais la nazi-anxiété, si j'ose dire, et à très court terme. Donc elle ne se présente pas comme surhumaine, on a bien le droit d'être abattu et découragé de temps en temps, écrit-elle. Mais quand même, pour sortir de l'anxiété, elle prend appui sur une très très grande lucidité. Capacité à regarder la réalité en face. Donc voilà ce qu'elle dit. Je connais l'air traqué des gens, l'accumulation de la souffrance humaine. Je connais les persécutions, l'oppression, l'arbitraire, la haine impuissante et tout ce sadisme. Je connais tout cela et je continue de regarder au fond des yeux le moindre fragment de réalité qui s'impose à moi. Je continue de regarder au fond des yeux le moindre fragment de réalité qui s'impose à moi. Et on peut le dire, ces fragments de réalité qui s'imposaient à elle, c'était très très dur, pas du tout évident à regarder en face. Fondamentalement, la démarche philosophique ou spirituelle ne consiste pas à se focaliser sur la difficulté, à se focaliser sur les aspérités de la vie, à se préparer aux épreuves. C'est un peu plus profond, un peu plus ouvert, ça consiste à assumer la totalité de l'expérience humaine. Donc on ne prend pas que les difficultés, on prend les cadeaux et les épreuves, les bons côtés, les mauvais côtés, la peine et le plaisir, la souffrance et la joie, le succès et l'échec. On prend la totalité de l'expérience humaine. Comme le dit Aragon dans un poème qui s'appelle Strophe pour se souvenir et qui évoque l'exécution d'un groupe de résistants, et notamment du résistant Manoukian. Et donc, dans le poème, Aragon donne la parole à Manoukian juste avant son exécution. C'est les dernières paroles, si on peut dire. Et donc, voilà les deux vers de ce poème. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent, adieu la peine et le plaisir, adieu les roses. Voilà, adieu la vie, adieu la peine et le plaisir. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et c'est l'association des deux qui fait toute la richesse de la vie. Cinquième et dernière partie, assumer qu'on va faire face à des temps difficiles. Sans être prophète de malheur, sans annoncer à tout bout de champ la fin du monde, sans se vautrer avec complaisance dans une espèce de fascination morbide ou pleine de culpabilité, il me semble personnellement qu'il y a au moins trois avantages à dire les choses comme elles sont et à oser assumer qu'on va affronter des temps difficiles. La première raison, c'est l'action. Et c'est le plus important. L'important, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, de penser qu'il est trop tôt ou trop tard, de considérer que l'humanité trouvera toujours une solution ou pas. L'important, c'est de poser les actions nécessaires pour résoudre la difficulté. Mais, quand les actions nécessaires sont un peu coûteuses, comment les justifier? L'action doit être proportionnée à la gravité et à l'urgence. Si on minimise la gravité et l'urgence, les actions resteront sous-dimensionnées. Si je dis à un ami atteint d'un cancer de la gorge qu'il a une rhinopharyngite et qu'il a tout son temps, comment pourrais-je le convaincre de faire d'urgence une chimio? La chimio se justifie que s'il n'y a pas d'autre solution et que le cancer est bien avancé. Il est important de nommer une difficulté telle qu'elle est, ni plus ni moins, si on veut justifier la prise de mesures adéquates. Et évidemment, quand ces mesures doivent être importantes et qu'elles exigent des sacrifices, des modifications importantes de notre mode de vie et de remise en cause idéologique, on ne ferait pas ça pour des toutes petites difficultés. À moins qu'on veuille continuer à croire, mais là il y a à mon avis une grosse part d'illusion, qu'on va pouvoir s'en sortir à moindre frais, sans effort ou sacrifice important. C'est difficile d'assumer qu'il faut prendre rapidement des mesures importantes, voire drastiques. Donc première raison, l'action. Et une action à la hauteur de l'enjeu, ni plus ni moins. La deuxième raison d'assumer qu'on va vers des temps difficiles, c'est qu'il faut se préparer, même se préparer rapidement. Donc c'est bien de dire qu'on peut être optimiste et que le pire n'est jamais sûr et que tout est encore possible, mais du coup, on ne se prépare pas. Celui qui pense qu'il a le temps prend tout son temps. Et quand les temps deviennent difficiles, si on n'a pas préparé les gens psychologiquement et matériellement, ils sont complètement démunis et souffrent davantage. Finalement, pour ne pas effrayer les gens aujourd'hui, on les abandonne à leur sort demain. Il y a une préparation individuelle, que j'ai déjà évoquée en rappelant quelques principes de base de philosophie et de spiritualité. Trouver ça une force intérieure, une aptitude, une capacité à rester positif, être lucide et positif, lucide sans s'effondrer. Mais il y a aussi une préparation collective, car collectivement, il y a vraiment deux façons de traverser des temps difficiles. Et ces deux façons ont existé, soit l'une, soit l'autre, soit les deux ont cohabité, plus ou moins. Donc il y a une première façon qui est assez douloureuse, c'est de traverser une difficulté dans le chaos, la violence, la peur, le chacun pour soi. Puis il y a une autre façon de traverser une épreuve, c'est dans un contexte d'état de droit et de solidarité. Alors avec les gilets jaunes et le Covid, on a vu pointer un début de violence. Pendant l'épisode des gilets jaunes, il y a eu du vandalisme et des destructions de biens communs. Et pendant la crise du Covid, il y a eu une violence essentiellement verbale et un peu de violence physique. Donc les gilets jaunes plus le Covid, un début de violence, mais limité. Mais que se passerait-il si nous devions affronter des crises plus graves? Donc on ne peut pas écarter. Traverser une épreuve ou une crise ou une période difficile vraiment dans un contexte d'état de droit et de solidarité, on ne peut pas dire que c'est acquis d'avance. Ça répond à une intention consciente. Donc se préparer, c'est nourrir cette intention consciente et faire en sorte que ça suive derrière. Donc je disais trois raisons d'assumer qu'il y aura des temps difficiles. La première, c'est l'action. La deuxième, se préparer. Et la troisième raison, c'est que même si on n'arrive pas à éviter des temps difficiles, même si on n'arrive pas à éviter certaines épreuves, on peut déjà commencer à réfléchir et à préparer le monde d'après. Il est très important de visualiser et même de faire vivre dès aujourd'hui, au moins en partie, au moins au stade expérimental, le monde d'après. C'est-à-dire des choses qui nous paraissent positives, qui nous paraissent être des solutions aux difficultés actuelles, parce que ça introduit dans un décor sombre une note inspirante. On voit la crise et puis on voit un peu plus loin. Le tableau est alors complet, parce qu'on ne peut pas séparer la crise et la nouveauté, la destruction et la création, la souffrance et la guérison de la souffrance. Tout ça fait partie d'une même réalité. Par rapport à la difficulté écologique et au réchauffement climatique, c'est assez crucial, parce qu'on imagine bien les catastrophes, les intempéries, on redoute les restrictions, on voit le côté rabat-joie des mesures écologiques, on le reproche beaucoup. On parle d'écologie punitive, etc. Mais peu de gens perçoivent les opportunités, peu de gens voient la possibilité d'un monde fondé sur d'autres valeurs et dans lequel on pourrait vivre même plus heureux que dans celui que nous connaissons aujourd'hui. Donc la perspective est claire, c'est faire exister des projets viables avec comme priorité de ne nuire ni à la nature ni aux êtres humains, des projets qui privilégient le long terme, la qualité de vie et les relations entre êtres humains. C'est tout ce que j'appelle en fait prendre soin du monde. Pour conclure, je voudrais rappeler que puisque l'avenir est inconnu, quoi qu'il arrive, les choses ne se passeront pas comme nous l'imaginons. Et la seule certitude, en fait, c'est qu'il va se passer quelque chose et qu'il y aura du négatif et qu'il y aura aussi des aspects positifs. En revanche, quoi qu'il se passe, et parce que ça viendra nous chercher à coup sûr dans nos retranchements, il nous faudra mobiliser tout ce dont nous pourrons disposer comme lucidité, courage, compréhension bienveillante, solidarité et force intérieure. Notre défi sera donc de traverser ce qui nous attend avec dignité. Et je voudrais terminer en citant de nouveau Étienne Soume. Après la guerre, nous aurons à construire un monde entièrement nouveau. Et à chaque nouvelle exaction, à chaque nouvelle cruauté, nous devrons opposer un petit supplément d'amour et de bonté à conquérir sur nous-mêmes. Nous avons le droit de souffrir, mais non de succomber à la souffrance. Et si nous survivons à cette époque, indemnes de corps et d'âme, d'âme surtout, sans amertume, sans haine, nous aurons aussi notre mot à dire après la guerre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.